Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Il est 13h et c'est l'heure du programme en français. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'émission. Je suis Léo Roussel et j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 14h ce dimanche. Au programme aujourd'hui, on commencera bien sûr par le personnage de la semaine avec Valentine Saboureau. Puis on vous proposera un nouvel épisode de l'histoire cachée d'Australie. Grégory Pless et Romain Fati s'intéressent ce dimanche à la monnaie en Australie. On vous emmènera ensuite au Sydney Festival pour découvrir le duo jazz No Sax No Clar. Bastien Végère s'est entretenu avec nous à quelques jours de la première représentation australienne du duo. Et puis en fin d'émission, on vous proposera de redécouvrir l'interview du fils de la célèbre photographe américaine Lee Miller. Anthony Penrose s'était entretenu avec nous à l'occasion de la sortie du film sur sa mère, célèbre photographe de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, on l'a dit, c'est l'heure de revenir sur le personnage de la semaine et c'est un portrait signé Valentine Saboureau. On revient aujourd'hui avec Valentine Saboureau sur la vie et le parcours de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Décédé le 7 janvier dernier et enterré hier dans l'intimité familiale en Bretagne, à la Trinité-sur-Mer, il restera l'homme politique qui a orchestré le retour en force de l'extrême droite et de ses idées dans la politique française post-Seconde Guerre mondiale. Sa vie aura été marquée par les sorties ouvertement racistes, xénophobes ou antisémites et par les condamnations pour négationnisme, provocation à la haine, la discrimination et la violence raciale, mais aussi les condamnations pour diffamation. C'est un portrait signé Valentine Saboureau.
Bonjour, bonjour à tous. C'est une personnalité immensément controversée qui vient de décéder mardi dernier à l'âge de 96 ans. Jean-Marie Le Pen, figure de proue de l'extrême droite française, entouré des siens, a été rappelé à Dieu, selon le communiqué officiel de sa famille à l'AFP. Fondateur souvent encombrant du Front National, il a non seulement réussi à ancrer durablement son parti dans le paysage politique hexagonal, mais il a aussi su transformer son nom en une marque générique capable de rassembler bien au-delà de sa personne, en témoigne la progression de la lepénisation des esprits et l'ascension spectaculaire de sa fille Marine.
Jean-Marie Le Pen, il aimait rappeler qu'il avait commencé sa vie modestement, Valentine.
Né le 20 janvier 1928 à la Trinité-sur-Mer, il est le fils unique d'un marin-pêcheur et d'une fille de paysan breton. Il grandit en effet dans des conditions modestes, mais pas dramatiques. À 14 ans toutefois, il perd son père dont le bateau est touché par une mine allemande et devient alors pupille de la nation. Côté études, il se montre indiscipliné et bagarreur, mais il a acquis le goût de la rhétorique chez les jésuites et il lit énormément. Il obtient son bac de philo, s'inscrit en droit pour devenir avocat, il obtient une licence, mais rate son entrée au barreau. Pendant ses études, il se montre aussi fêtard que gueulard, acquérant une solide réputation de gars de droite au point facile, anticommuniste et antigaulliste. À cela s'ajoutera bientôt la figure du para. Il a bien tenté de rejoindre les forces françaises intérieures en 1944, mais il était trop jeune. Il s'engage alors en Indochine pour casser du Viet, mais il arrive un peu tard. Et bien finalement, c'est au sein de la Légion qu'il se fait remarquer. C'est dans ce corps-là qu'il s'investit pour sauver l'Algérie française des mains des Rouges. Par la suite, il justifiera le recours à la torture dans le pays, même si l'usage qu'il en aurait fait reste flou.
Jean-Marie Le Pen restera notamment connu pour avoir accédé au second tour de l'élection présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac. Un véritable choc pour la France à l'époque, mais sa carrière politique, elle commence en réalité bien avant, en 1956.
Eh bien, il est en effet élu cette année-là comme député sur une liste poujadiste. C'est la première fois. Il a 27 ans et il fait ses premiers pas à l'Assemblée, ce qui lui vaut d'être remarqué pour ses talents de tribun. Il n'est pas réélu en 1962, si bien qu'il commence une traversée du désert, interrompue cependant par son soutien à Jean-Louis Texier-Vignancourt, avocat d'extrême droite, candidat à la présidentielle de 1965. 1972 marque un tournant avec la création du Front National pour l'Unité Française avec Alain Robert, ancien de l'Ordre Nouveau et du GUD. Jean-Marie Le Pen en devient président, il gardera les rênes du parti alors même qu'il se fâche avec son partenaire. Seul maître à bord, il va tracer son chemin, se présentant 5 fois à la présidentielle. En 1978, on se souvient de sa campagne choc dénonçant 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop, la France et les Français d'abord. Et bien sûr, on se rappelle 2002, année où il réussit à passer au second tour et se retrouve face au candidat Jacques Chirac. À l'époque, les manifestations contre l'extrême droite sont quotidiennes et jettent des millions de Français dans les rues.
On s'est fait avoir, on a cru que ça allait tout seul, mais cette fois-ci on s'est fait avoir, il faut qu'on se réveille.
Et si la France s'oppose autant à Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, c'est notamment en raison de ses multiples sorties racistes et violentes et de ses multiples condamnations pour ses propos.
Oui, sa vie politique a été émaillée de scandales et de poursuites judiciaires pour des propos violents et diffamatoires.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce détail de l'histoire, formule choc qu'il reprendra de nombreuses fois, eh bien lui coûtera quand même 1 million de francs à verser à 10 associations antiracistes. L'inégalité des races est aussi une de ses marottes, tout comme le fléau de l'immigration. Il se désole des 5 millions de musulmans ou du million de chinois, sans compter les joueurs de foot.
C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
Les malades du sida en prennent aussi pour leur grade.
Le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux.
Cette diatribe n'épargne pas ses ennemis politiques, qu'ils soient issus de sa propre famille, de son parti et bien sûr du camp adverse.
J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit.
Et finalement, tous ses propos, toutes ses condamnations, eh bien ça finira par lui coûter cher. Sa figure devient même un poids pour le Front National qui souhaite à un moment donné lisser son image, Valentine.
Et oui, en 2015, il finit par être exclu de son poste de président d'honneur du Front National par sa propre fille Marine à la tête du parti depuis 2011. Celle-ci est en train de travailler, et ça marche plutôt bien, à la dédiabolisation de l'organisation aux grandes dames de son père. Jean-Marie Le Pen tente de revenir par la voie légale, mais le bureau politique finit par voter la suppression pure et simple du président d'honneur. Exit le patriarche. Victime d'une forme légère d'AVC en 2022 et sujet à des problèmes cardiaques, il est mort alors qu'il était hospitalisé dans un établissement de Garches. Il était le dernier parlementaire de la 4e République encore vivant. Du côté du Rassemblement National ex-FN, Jordan Bardella a salué un homme qui a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. « Pars tranquille, je n'abandonnerai pas la mission », a assuré l'eurodéputé Marion Maréchal, sa petite-fille sur X. À droite, les réactions ont été plutôt sobres, en condoléances et reconnaissance d'un homme qui aura marqué la vie publique. À l'extrême gauche, c'est un autre son de cloche. Philippe Poutou n'a pas pris de gants, célébrant une bonne nouvelle et rappelant que Jean-Marie Le Pen était, je cite, « un raciste, un colonialiste, un facho, un tensionnaire, un assassin, un homophobe ».
On On vous propose maintenant de vous plonger dans l'histoire de l'Australie, mais pas n'importe laquelle, celle qu'on ne connaît pas très bien. Vous l'aurez compris, c'est l'heure d'un nouvel épisode de l'Histoire cachée d'Australie, avec notre collègue Grégory Pless et l'historien Romain Fati.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie, le premier de cette nouvelle année 2025. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui, je suis sûr, vous intéressera tous, celui de la monnaie, l'histoire de la monnaie en Australie. Et comme d'habitude, eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonne année à tous vos auditeurs.
Alors, donc l'histoire de la monnaie en Australie, elle est un petit peu particulière puisque la monnaie, justement, elle a pris des formes très variées, même si la colonisation a commencé assez tardivement en Australie. On n'a pas tout de suite eu des pièces et des billets, mais avant de rentrer justement dans la période où ce sont les Anglais qui ont pris le contrôle du pays, je voulais savoir si au sein des différentes communautés aborigènes, est-ce qu'on sait si avant la colonisation, certaines utilisaient des moyens d'échange qui soient autres que du troc, c'est-à-dire des pièces ou je sais pas, des coquillages, des choses qui servaient vraiment à acheter et vendre des produits.
Alors, des pièces, de la monnaie au sens moderne du terme, monnaie fiduciaire, pièces, billets, non, il n'y a pas de traces archéologiques qui démontreraient que les populations aborigènes aient utilisé une monnaie telle qu'on la conçoit avant la colonisation. Cependant, il y a un système de troc très bien établi dans les communautés aborigènes et entre les peuples aborigènes, puisqu'il y en a de très très nombreux. Ça pouvait être du troc avec des outils, de la nourriture, des pigments également qui sont importants dans les cérémonies. Et comme vous l'avez souligné, les coquillages. Alors ça, c'est pas partout dans le continent, parce qu'on n'a pas nécessairement accès aux coquillages très loin à l'intérieur des terres, mais ça permettait aux populations aborigènes de commercer entre elles, d'échanger entre elles, et surtout d'entretenir des liens avec d'autres peuples, d'autres pays, comme par exemple les côtes du nord de l'Australie, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Donc vous avez un système d'échange, de troc, et effectivement les coquillages sont peut-être ce qui s'est rapproché le plus de ce que nous comprenons comme une monnaie.
Alors c'est donc vraiment avec le début de la colonisation qu'apparaît la première monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et à l'origine, en 1788, l'Australie, qui n'est pas encore l'Australie d'ailleurs, est une colonie de l'Empire britannique, et donc c'est la livre anglaise qui est la monnaie officielle, sauf que d'après ce que j'ai pu lire, des pièces et des billets, il y en a en fait assez peu en circulation, il y a une pénurie constante, et donc le premier vrai moyen d'échange dans la colonie naissante en Australie, c'est le rhum. C'est vraiment de l'argent liquide là pour le coup.
Très bonne blague. Alors oui, effectivement, avec la colonisation de la Nouvelle-Galles du Sud, qui est la première des colonies australiennes fondée en 1788, se pose la question de la monnaie. Donc il y en a effectivement qui vient avec la première flotte. Et puis la question, en fait, quand vous devez établir une colonie dans un nouveau pays, il y a une chose à prendre en considération, déjà la survie des personnes que vous transportez, la nourriture est très importante, donc si vous voulez, importer des monnaies n'est pas vraiment tout en haut de la liste des priorités, si bien qu'il n'y en a pas assez, et par ailleurs, la monnaie qui est importée est assez fréquemment utilisée pour payer des marchandises qui viennent par bateau, donc elle repart. C'est très compliqué de garder la monnaie dans la colonie au début de sa fondation. Et par ailleurs, il y a tout un tas de monnaies étrangères qui est en circulation. Donc c'est un petit peu un capharnaüm assez important. Et comme vous le soulignez, le rhum devient une monnaie d'échange. Alors, le rhum, mais aussi en fait toutes sortes d'alcools distillés. Parce que ça, vous pouvez le produire sur place et vous pouvez facilement le transporter, plus ou moins facilement. Il y a même, on aura peut-être l'occasion de faire un épisode sur cet épisode assez intéressant de l'histoire australienne, il y a même la rébellion du rhum en 1808, où en fait vous avez un corps d'armée, parce que l'importation des liqueurs, des spiritueux, elle est contrôlée évidemment. Et vous avez un un régiment qui en réalité met un peu la main sur ce commerce, en tire des profits considérables, et quand le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud essaye de mettre de l'ordre là-dessus, eh bien il est renversé. Donc c'est le seul coup d'état militaire documenté en Australie, du fait justement de l'importance du contrôle du rhum pour payer des échanges. Et pas qu'entre particuliers, hein. Il y a des traces dans les archives de Nouvelle-Galles du Sud où le gouvernement s'est acquitté de dettes qu'il avait contractées envers tout un tas de personnes qui travaillaient pour lui, en les payant avec du rhum. Donc effectivement, le rhum est une monnaie d'échange.
Très bien. Alors, cette forme un peu originale de monnaie, elle est utilisée pendant quand même plusieurs années parce que, vous le disiez, enfin, ce problème de rétention des pièces de monnaie anglaise sur le territoire australien perdure pendant un bon moment. On utilise également, comme vous l'avez souligné, des monnaies issues d'autres pays. En fait, on fait avec ce qu'on peut, en gros. Et puis, la première véritable création de monnaie sur le territoire australien, c'est en 1813, c'est le gouverneur Macquarie. Et lui aussi, il emploie une méthode assez originale, puisqu'en fait, il va recycler des pièces issues d'un autre pays pour en faire des pièces australiennes. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment il s'y est pris?
Oui, alors, déjà, je rappelle qu'effectivement, le rhum comme monnaie d'échange, ce n'est pas anecdotique. Hein, ça dure quand même 2 à 3 décennies. Alors, il faut aussi contextualiser, c'est-à-dire qu'au tout début d'une colonie, vous n'avez pas tant à échanger finalement, puisque vous êtes encore dans une phase de colonisation, de mise en culture des terres, etc. Donc finalement, avec un peu de troc ici et là, vous pouvez vous en tirer. À mesure que votre économie se densifie et se complexifie, effectivement, il faut une monnaie pour simplifier les choses. Et puis parce que ça permet d'agrandir, en fait, d'augmenter l'économie. On pourra revenir là-dessus. Donc effectivement, en 1813, le gouvernement Macquarie se dit on ne peut pas continuer comme ça, il nous faut vraiment de la monnaie, il n'y en a pas assez qui arrive de livres sterling qui arrivent de Grande-Bretagne. Et donc, via les Britanniques, ils récupèrent ce qui s'appelle à l'époque le dollar espagnol. Alors, pour faire bref, c'est une monnaie qui est utilisée dans les colonies bientôt indépendantes, et donc ça posera des soucis aux Australiens, d'Amérique du Sud. Et il fait venir ces pièces et il les perce, tout simplement. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, auditeurs, se souviennent des anciens francs, quand ils ont été démonétarisés, pour les rendre nuls, en fait, ils ont été troués. Hein, certains d'entre vous se souviennent peut-être de petites pièces dans les porte-monnaies avec des trous à l'intérieur, ben c'est de ça dont il s'agit. Et donc, il fait importer ces dollars, il les perce, et la grande pièce trouée devient le holy dollar, le dollar troué, si vous voulez, et la petite pièce, dump, est conservée, parce que ça permet d'avoir une seconde monnaie d'échange inférieure. Donc, un certain nombre de petites pièces équivalent à une grande pièce, etc., etc. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en perçant ces dollars espagnols, ben, ils ne peuvent plus être exportés, puisqu'ils n'ont plus de valeur pour les autres, puisque c'est un peu votre système à vous. Donc en fait, quand on parle de création de monnaie en 1813, oui et non. C'est-à-dire que c'est plutôt un arrangement, un recyclage pour garder cet argent à l'intérieur de la colonie et éviter qu'il parte par bateau. Et la monnaie d'échange par bateau continue d'être soit la livre sterling quand elle est disponible, soit des marchandises, soit du troc en réalité.
Donc c'est vraiment ouais, la forme la plus rudimentaire de monnaie nationale. D'ailleurs, j'ai pu voir que, en fait, c'est encore quelques années plus tard, quand on commence à découvrir de l'or en Australie, donc plutôt vers le milieu du 19e siècle, couvre les premiers vrais ateliers de fabrication de monnaie en Australie. Alors que, vous le disiez, jusqu'à présent, il y avait ces pièces trouées qui avaient été un petit peu recyclées pour l'usage local et qu'on continuait à utiliser des monnaies étrangères pour commercer avec le reste du monde et évidemment avec le Royaume-Uni.
Oui, ça, c'est très important de le rappeler. C'est avec la découverte de l'or que les choses commencent à changer. Et ça, c'est dans les années 1850. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les monnaies qui sont frappées à cette époque en Europe sont indexées sur une valeur qui est donnée, qui est accordée à des métaux, comme l'or, l'argent, le cuivre, par exemple. Donc, si vous voulez, on sait qu'une pièce d'or frappée a un poids en or, et ce poids correspond à une valeur fixe. Donc un certain nombre de pièces, en or, en argent ou en cuivre, vont vous permettre d'acheter une valeur fixe. Ça stabilise les prix, ça permet d'accroître le commerce et la mobilité des biens, etc., etc. Et donc, avec le Gold Rush en Australie qui se passe quelques décennies après, vous avez la multiplication de monnaies frappées de différentes colonies australiennes, que ce soit la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, l'Australie occidentale. Et c'est très important, cette découverte d'or et d'autres métaux, parce qu'elle permet justement de frapper monnaie en Australie par les Australiens, et c'est une monnaie qui est indexée sur la livre sterling britannique, ce qui fait que en fait, les Australiens peuvent aussi maintenant exporter leur monnaie qui sera utilisée ailleurs aussi, enfin du moins les pièces qui peuvent être frappées ailleurs, qui sera utilisée dans d'autres colonies britanniques comme l'Inde par exemple. Donc ça permet vraiment à l'économie australienne de s'ouvrir, de stabiliser et de ne plus être dépendante de l'importation de monnaie.
On va s'arrêter ici pour le moment sur cette histoire cachée de la monnaie en Australie. Je vous invite à revenir dans quelques jours sur notre site internet ou sur la chaîne SBS French que vous trouverez sur toutes les plateformes audio pour écouter la suite de cette histoire. Elle sera publiée donc d'ici quelques jours.
Choisissez sbs.com.au/french. Comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
C'est l'heure de parler musique maintenant dans le programme en français. Cette semaine, on vous propose de découvrir le duo français No Sax No Clar qui sera à l'affiche du Sydney Festival les 18 et 19 janvier prochains. Bastien Végère, clarinettiste du groupe, s'est entretenu avec nous cette semaine. On a le plaisir aujourd'hui d'être en ligne avec Bastien Végère, clarinettiste du duo français No Sax No Clar, qui se produira en concert à Sydney les 18 et 19 janvier prochains, dans le cadre du Sydney Festival. Bonjour Bastien et bienvenue sur SBS French.
Bonjour.
Alors vous nous appelez depuis la France, vous serez à Sydney d'ici un peu moins de 10 jours maintenant. Ce sera votre premier concert aussi loin de la France ?
Et bah ouais, je pense que ce sera le premier aussi loin, ouais. Parce que je suis allé jouer en Indonésie il y a quelques années, mais là, ce sera, je pense, le plus loin d'Australie, ouais.
Alors, comment vous vous sentez à quelques jours de décoller pour l'Australie ?
Et bah, moi, j'avoue, je suis assez excité de partir là-bas. Et voilà, je commence à y penser de plus en plus, à en parler de plus en plus. Donc, ouais, je suis assez excité.
Alors, c'est un programme assez chargé qui va vous attendre en Australie, puisque vous allez jouer donc à Sydney les 18 et 19 janvier, mais vous allez aussi visiter d'autres villes d'Australie et vous produire dans d'autres villes.
Ouais, c'est ça. Donc, on joue donc le 18 et 19 à Sydney, et après, on part jouer à Canberra le mardi, donc 21, et le mercredi, on sera à Melbourne, voilà, puis on repart le jeudi.
D'accord, donc un séjour assez court quand même en Australie pour vous. Vous espériez peut-être avoir du temps pour profiter de l'Australie et pour découvrir les villes ?
Bah ouais, c'est vrai que souvent c'est ça un peu quand on est musicien, malheureusement, enfin, on a de la chance de pouvoir voyager dans plein de pays super. Et en même temps, parfois, on n'a pas assez de temps. Enfin, ça peut être un peu frustrant. Après, on a quand même le temps de voir des choses. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, on a des concerts avant en France et après, donc on ne peut pas non plus rester malheureusement trop longtemps.
Alors ici, on ne vous connaît pas forcément encore, à moins d'être un amateur de musique. Est-ce que vous pouvez présenter votre duo No Sax No Clar ?
Ouais, alors No Sax No Clar, donc, c'est un duo de jazz instrumental. Donc il y a Julien Stella qui joue de la clarinette et de la clarinette basse. Et moi, je joue donc de la clarinette aussi et du saxophone, soprano et saxophone alto. Donc voilà, on est juste en duo, c'est de la musique acoustique, il n'y a pas du tout d'effet électronique ou autre. On est juste, voilà, juste tous les deux. Et on joue nos compositions, donc qui sont des compositions plutôt orientées jazz, je dirais, jazz avec beaucoup d'influence, ça peut être l'influence de musique du monde entier, ou aussi de jazz un peu moderne, ou de choses comme ça.
Alors, voilà. des clarinettistes, du saxophone, mais pourtant votre nom de groupe, c'est No Sax No Clar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nom de groupe qui, au final, est un petit peu décalé par rapport à ce que vous faites?
Et bah ouais, bah en fait c'est ça, c'est un nom de groupe quand on a, souvent quand on monte des groupes avec des musiciens, bon, il arrive un moment où il faut nommer le groupe et trouver un nom. Donc voilà, on a pas mal cherché, on s'est dit finalement No Sax No Clar, c'est assez, comment dire, ça interpelle un peu les gens. Finalement on entend quand même, enfin on voit quand même saxophone clarinette, donc on s'imagine que ça peut avoir un rapport ou pas avec, mais bon voilà. Donc ouais, c'est un nom un petit peu qui interpelle, mais bon, je trouve que c'est ça qui est sympa, ça, voilà. Et même visuellement, quand c'est écrit, c'est assez. Je sais pas, je trouve ça sonnait bien.
Alors, No Sax No Clar, c'est un duo qui a été formé en 2020. Est-ce que c'est possible de revenir pour nous sur la formation de ce duo? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Vous aviez déjà joué dans les années précédentes?
Ouais, alors même un petit peu avant 2020, je pense qu'on a monté le groupe en 2018. Bon, après, c'est toujours au début, c'est voilà, tout frais. Donc on a commencé à les répétitions, je pense, en 2018. Puis après, il y a eu les premiers concerts en 2019, peut-être un ou deux. Et après, en 2020, c'était le vrai commencement, voilà, du groupe. Et bah ouais, nous, on se connaît avec Julien depuis, je pense, pas loin de 15 ans maintenant. Parce que donc, moi, j'habite à Tours et lui, pendant un temps, il habitait aussi à Tours. Donc on était musiciens dans cette ville. Et en fait, on a fait une collaboration avant No Sax No Clar sur un autre groupe qui s'appelle Groove Catchers, qui est un trio de jazz dont je fais partie. Et en fait, avec ce trio, on a invité Julien, qui lui est beatboxer également et clarinettiste. Donc on l'a invité sur un disque. On a fait pas mal de concerts ensemble déjà avec ce groupe-là. Et à la fin de cette collaboration artistique-là, avec Julien, on s'est dit, bon, bah, ce serait cool de monter. D'essayer de monter un autre groupe, tous les deux. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est né No Sax No Clar, en fait. Donc on se connaît depuis longtemps.
Donc là maintenant, ça fait un petit moment que vous jouez tous les deux, que vous produisez à l'international. Comment c'est arrivé cette reconnaissance, on va dire, internationale? Qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir vous produire dans des pays étrangers?
Et bah, je dirais plusieurs choses. Déjà de la chance, en fait, d'avoir. On a participé à un festival qui s'appelle Jazz Ahead. C'est à Brême, en Allemagne. Et c'est un festival de jazz où il y a beaucoup de professionnels du monde entier qui viennent, bah, pour se rencontrer, rencontrer des musiciens, rencontrer des autres professionnels. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a rencontré les programmateurs du festival à Sydney, il y a 3 ans maintenant. Et donc voilà, ça fait 3 ans qu'on essaie ça. Donc ça, c'est la première chose, la chance. Et puis la deuxième, c'est aussi on est entouré donc d'agents qui s'appellent Simon Barraud et maintenant Nathalie, aussi Bonnevaux, qui sont deux personnes qui nous accompagnent. Qui suivent le projet, qui font les filiations avec les programmateurs et tout ça. Donc voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on peut voyager. Après, la reconnaissance, je sais pas trop, mais en tout cas, on commence à jouer à l'étranger de plus en plus. Bon, l'Australie, là, c'est vraiment très très loin, mais c'est super, quoi.
Alors, dans la presse française, j'ai pu voir qu'on décrivait votre style comme plutôt atypique. Comment est-ce que vous décririez votre musique?
Et bah ouais, je pense que c'est une musique qui est. Moi, je décrirais la musique de. C'est assez, comment dire, facile d'accès, que ce soit pour des personnes pas du tout musiciennes, ou c'est aussi intéressant pour des musiciens. C'est une musique qui est assez. C'est rare d'entendre simplement deux clarinettistes, ou alors on a des morceaux où on fait de la clarinette tous les deux, ou des morceaux où c'est clarinette saxophone. Mais c'est assez rare, je pense, pour l'auditeur d'entendre et de voir un groupe avec uniquement deux soufflants. Et en même temps, les morceaux, il y a plein de morceaux différents, donc plein d'instrumentations différentes. Donc il y a des morceaux où on est à deux clarinettes, des morceaux saxophone clarinette, des morceaux clarinette basse, clarinette. Voilà, ça change. Donc c'est ouais, atypique, mais en même temps assez facile d'accès, je trouve, pour le public.
Alors, vous parliez au début de cette interview du fait que votre musique, c'est uniquement vos instruments, il n'y a pas de musique électronique autour, très peu d'arrangements. En quoi est-ce que vous attachez de l'importance au fait qu'il y ait peu d'arrangements autour et peu de musique électronique autour?
Et bah, en fait, c'est vrai que nous, quand on jouait avec Julien dans le premier groupe, donc Groove Catchers à l'époque, c'est vrai que c'était un groupe, donc c'est basse électrique, c'était batterie, et moi au saxophone, j'avais beaucoup de pédales d'effet. Lui, il faisait beaucoup de beatbox, donc il était micro, donc c'était quand même beaucoup de lien avec l'électronique, avec l'électrique. Et quand on a monté No Sax No Clar, il y avait une volonté à la base de Les premières répétitions sont faites dans la nature, quoi. On s'est retrouvés à côté de Nantes, il y a une rivière qui s'appelle l'Erdre qui passe. Et les premières répétitions, c'était vraiment, on se retrouve à côté de l'eau et on joue comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup et j'aime aussi ce rapport à l'instrument simple, juste de l'acoustique, où genre, on prend notre bon instrument sur le dos, on marche, on la sort où on veut et on joue vraiment où on veut. Et donc, dès le début de ce groupe, c'est vrai qu'il y avait une volonté d'essayer de jouer une musique complètement acoustique. Et en plus de ça, il y a un challenge de se dire, bon, bah voilà, on est juste tout seul à faire sonner notre instrument, il n'y a pas d'aide extérieure. Donc, ça, c'était un peu un challenge en plus. Ouais.
Alors finalement, pouvoir vous produire aussi loin de la France, partir directement à l'international, c'est quand même un beau début pour 2025, non?
Ouais, c'est super. Ouais. Ouais, ça va être notre premier concert en 2025, ce sera à Sydney. Ouais, donc, c'est un peu improbable de dire ça, mais ouais, c'est super.
C'est quoi vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois? Vous avez d'autres grosses dates à venir?
Et bah ouais, on a pas mal de concerts. On va aller jouer en Allemagne aussi au mois de février, mars, si j'ai pas de bêtises. On a des concerts en France aussi. On commence à, là, on a sorti déjà trois disques depuis la création du groupe. Là, on commence à réfléchir et à composer la musique pour un quatrième disque. Pour les voyages, pour ce qui est des voyages, on va partir aussi en Finlande au mois de juillet prochain, afin de faire des concerts et de commencer à travailler sur ce disque. Donc voilà, donc ouais, plein de petits voyages et de concerts en France aussi. Donc ouais, c'est super.
Concernant vos concerts en Australie, quelles sont les musiques que vous allez jouer? Est-ce que c'est des musiques qui proviennent d'à peu près tous vos albums ou c'est un album en particulier? Comment vous vous êtes organisé et comment vous avez choisi les musiques qui seront présentées au Sydney Festival et ensuite à Canberra et à Melbourne?
Et bah ouais, donc c'est ça. Donc les musiques qu'on a choisies, c'est un mix, je dirais, des trois albums qu'on a fait. C'est un peu les morceaux qui nous semblent les plus pertinents, qu'on aime bien jouer sur scène. Donc voilà, c'est un mix. Il y a comment on les a choisis. Je pense que ça s'est choisi un peu naturellement. C'est les morceaux qu'on joue ces derniers temps sur scène, qu'on aime bien. Et donc il y a des morceaux un peu des trois disques, ouais.
Eh bien, merci Bastien d'avoir été avec nous sur SBS French pour nous présenter le duo No Sax No Clar. On rappelle que vos concerts, eh bien, ça commence le 18 janvier prochain à Sydney. La grosse date, c'est le 19 à 18h à l'Australian Chamber Orchestra de Sydney. Et peut-être à bientôt sur SBS French, Bastien.
Bah, merci beaucoup Léo et bonne continuation et à bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On est ensemble jusqu'à 14h et je vous propose maintenant de redécouvrir une interview exceptionnelle, celle d'Anthony Penrose, le fils de la célèbre photographe de guerre Lee Miller. Il s'était confié à SBS French l'an dernier à l'occasion de la sortie du film dédié à sa maman, dont les photos comptent aujourd'hui parmi les plus célèbres de l'histoire. On fait une courte pause et on revient tout de suite sur SBS Radio.
Le film Lee, qui dresse le portrait de la photojournaliste américaine Lee Miller, sort cette semaine en Australie. C'est à Miller qu'on doit certaines des photos les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale. Mettant en vedette Kate Winslet, le film révèle une femme complexe et déterminée avec un talent hors du commun. Réalisé par Ellen Kuras, le film met aussi en scène Marion Cotillard, Noémie Merlan et Alexander Skarsgård. Le fils de Lee Miller, Anthony Penrose, a été étroitement impliqué dans la création du film avec Kate Winslet. On écoute une partie de la bande-annonce de Lee et on discute ensuite avec Penrose du moment où il a découvert le passé de correspondante de guerre de sa mère, des similarités entre Winslet et Miller et de la scène du film qui l'a fait pleurer à chaudes larmes.
I was born determined. I was good at drinking, having sex, and taking pictures. And I did all three as much as I could.
Not everyone can believe this. Surely they can see what he is.
The question is, what are you going to do, Lee Miller?
Europe was at war, and I felt useless.
I hear you're the woman to see about a job.
I am.
We don't hire older models.
I'm not a model anymore.
I'd rather take a picture than be one.
It's just so creative.
Send me to Europe. I just want to do my part. I'm with Vogue magazine.
There's no women allowed in the press briefing.
You've got to be kidding me.
We don't send women to combat.
Well, that's a problem, because I'm here.
Why should the men get to decide?
I'm heading to the front.
That's not what I thought you were going to say.
Ready to go?
Anthony Penrose, welcome to the radio program of SBS French.
Thank you. Glad to be here.
Mr. Penrose, the film Lee about your mother, the photographer Lee Miller, is about to be released in Australia this week. The world now knows her as this great war correspondent, but you only found out about this part of her life after she died. Can you talk to me about this?
During her lifetime, my mother didn't speak to me at all about her adventures during the war, except maybe a few times when she said stories about something funny that had happened. So I got the idea that she had done little or nothing. I knew she'd been a war correspondent, but obviously that was not important because she never mentioned it. So after she died, my late wife, looking for pictures of me as a baby, went up into the attic. We had just had our first born little baby daughter, and she wanted to compare how baby looked to how I looked. And so she was hunting for pictures of me, and instead she found some pages of manuscript, and she brought them to show me because she was very conscious of how conflicted my relationship with my mother had been, because during the time that I knew her, my mother had been an alcoholic and a depressive for most of those years. And so she showed me these pages, and I was astonished because it was this incredibly vivid account of an infantry attack on a heavily defended fortress in northern France. And I was amazed because it was this up-close and personal style that I thought it must have been some Life magazine, a really important journalist, but my father confirmed that it was Lee Miller, my mum, when he produced a copy of Vogue magazine where it was all printed, and they're called The Siege of St. Malo by Vogue's own war correspondent, Lee Miller, there throughout the siege. And this was a life-changing moment because when we started to study the images, I realized that this person that I had dismissed as a useless drunk had in fact actually had the most astonishing career as a photographer, as a journalist, and actually, totally unexpectedly, as a combat photographer.
Yes, it was a whole new facet of your mom that you discovered.
A whole new life of hers that I had no idea. I knew that she had lived with Man Ray and been a surrealist photographer in Paris. I knew that she had done exciting things in New York. I knew that she had lived for 5 years or more in Egypt and so on. But I had no idea of her war experiences. And that was the most prominent thing that we found in this collection.
And you mentioned she had many lives, a remarkable life. I've read that you were approached many times by people wanting to make a film about her, but that you didn't feel that they got her. But when Kate Winslet, co-produced and star in the film, reached out, something changed. What was it that she understood about your mother?
What was immediately evident was that Kate had an empathy and an understanding with my mother. And this was heightened when Kate started to research, because she came to the archive and she spent a very long time reading the letters and looking at the photographs and looking at everything. Possible thing, right down from Lee's clothes to the maps and the prescriptions that she was using and that sort of thing. When Kate came to the archives, she was very diligent in her research, and she wanted to see everything from the letters to the diaries to the manuscripts to the telegrams between Vogue's editor Audrey Withers and Lee, and you know, letters to her parents and things like that. And by studying all of these things, she really found the personality of Lee. Kate had the humility to find the personality. Everybody else, when they were trying to make the movie, decided that they were going to define Lee's personality on a more or less arbitrary basis, because they wanted her to be this exciting, glamorous, fast-moving person. And it was going to be a movie about a lot of sex, a lot of violence and stuff like that. With Kate, she really took so much trouble to investigate the personality and to represent that back on the screen. And that is why I feel this movie is such a success, but it's also such an authentic portrayal of my mother.
And you've worked pretty closely together, you and Kate Winslet, over many years to bring this film to life. How was the process?
The process was wonderful because Kate is very much like Lee Miller. She's very inquisitive. She just wants to know the backstory to everything. She's always asking why or how. And I find those kind of questions very stimulating. But then also she has a lot of personality that was similar to Lee in the fact that she's a very determined person, that she has tremendous drive and willpower. She's also very funny. She's a great sense of humor. And the wonderful thing as well is that she has this incredible fund of compassion. And I see that in Kate in many different ways. And I also saw it in Lee, that she really cared about the people that she loved. And that is, I think, a really important defining factor. It's easy to dismiss somebody of Lee's profile as being, you know, a single-minded career person. But no, Lee had a tremendous concern about others, particularly if they were disadvantaged.
And Kate is one of the many women who work on the film. The director, Ellen Kuras, is a woman as well. Many of the writers. Do you think it was important to tell that story, to have all these women?
Absolutely, because, like you mentioned, our director was Ellen Kuras. The key lead producer is another woman, Kate Solomon. The lead writer, Marion Hume, she's a woman. She's also formerly a Vogue editor, Vogue Australia, and she is also a journalist in many other ways and a fashion historian and an activist for women's rights. And then also there was Liz Hannah. She was the American writer who contributed. And so we have really a movie about a woman made by women. And that, for me, is why it succeeds, because it has this authenticity in its voice.
And it must be quite special to see the part of the story of your mom on screen like that. Is there a moment in Lee that especially touched you?
A lot of things especially touched me. There was this incredible dialogue between her and Audrey Withers in Vogue when she is so distraught because her photographs have not been printed. But that is just one of many moments, and it's a fantastic moment. But the thing that absolutely flattened me and reduced me to tears when I first saw it was when I saw the movie in its entirety. It was a rough cut. I saw it for the first time, and I had not been aware of the way that they had made up and costumed Kate to be the old Lee Miller. When she came on screen, it was devastating for me because it completely fractured my understanding. I was sitting there thinking, that's real. How the hell did they do that? They can't have filmed it, but they have. It's her for real. And then the other part of my mind was thinking, no, it's a movie. That's Kate. But it's not a movie. She's real. And the things, the voice, the gestures. I mean, how did Kate actually get those hand gestures, which were so like Lee? I don't know. She must have just somehow got it intuitively, because it was so accurate. And it took me quite a long time in the movie to just settle back down and view it objectively, because in that moment it had connected through to something really deep in me. And it still, for me, has that integrity.
Thank you so much, Anthony Penrose, for taking the time to speak to us about Lee Miller, the woman, and the film, which comes out in Australia this Thursday, 24 October. Thank you.
Thank you. It's been a pleasure to talk to you. Thank you very much indeed.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
port de Bogota, paré au top, c'est lunatique, pit. Départ dans 10 minutes, en cas de doute, planque la coque dans le coq. Briquez les armes, voici le plouc, un doute, un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là où vous savez. Tout de suite, le type tient louche, sa sueur coule comme si c'était douche.
C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes de podcast. J'ai été très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, ce sera mardi, même fréquence, même heure. On se quitte en musique avec Oxmo Puccino. Bon après-midi sur les ondes d'SBS Radio et bonne fin de week-end.
D'avoir voulu souhaiter doubler ma mafia. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes chaînes de vie.